Bonjour. Je veux absolument qu'on commence avec cette histoire. Puis juste, je m'en excuse, j'ai fait une erreur tout à l'heure. J'ai parlé de cette jeune femme de 19 ans qui est hospitalisée à l'hôpital de l'Enfant Jésus. J'ai dit qu'elle était décédée, mais non, elle est dans le coma à la suite d'une thrombose. Puis là, on dit, ah, c'est parce qu'on lui a prescrit de la pilule en contraceptive. Bon, pouvez-vous nous replacer toute cette histoire-là? Elle avait une maladie héréditaire, cette jeune femme-là, c'est bien ça?
Cette jeune fille-là était porteuse d'un facteur de risque héréditaire à cause de son frère qui avait cette maladie-là. Mais à l'époque, on a dit, selon son papa, que ce n'était pas génétique, alors que ce l'est. Alors, la jeune fille, peut-être n'a-t-elle pas dit au médecin que son frère avait fait une phlébite profonde avec complications. Peut-être l'a-t-elle dit et le médecin ne l'a pas pris en compte aujourd'hui, en 2020, pour faire les tests complémentaires, des tests sanguins, pour prouver si oui ou non elle est porteuse de ce gène-là. Et si elle était porteuse, à ce moment-là, la pilule qui augmente quand même la coagulabilité, ça c'est connu. Si nous regardions, chose que nous ne faisons pas, n'est-ce pas, la monographie, le petit papier mince, écrit petit dans la boîte de pilules, si on le lisait, là, c'est marqué que ça augmente la coagulation, puis c'est marqué que c'est contre-indiqué dans les migraines sévères où tu as des pertes de vision, c'est contre-indiqué dans certaines conditions, que si tu as déjà fait des phlébites, mais on ne lit pas, tu comprends? Ouais. Alors, d'autre part, il faut savoir que quand tu es une madame ordinaire, là, okay, comme toi puis moi, on a 3 à 4 risques sur 10 000 de faire une phlébite ou un problème vasculaire de coagulation, surtout une phlébite. Okay. Si on est une madame qui prend la pilule, on monte ce risque-là à 8, 9 par 10 000, un dans l'autre. Là, Et si on est enceinte, on monte à 28-30 sur 10 000. Mais dans le postpartum, après avoir accouché, on monte à 300-400 sur 10 000. Parce que juste d'être une madame postpartum, il faut que tu coagules pour ne pas te saigner à blanc quand tu expulses ton placenta puis dans les jours qui suivent. Donc, ton système fort bien fait augmente ta coagulabilité pour faire que tu ne te saignes pas à blanc. La nature étant bien faite. Sauf que pour cette pauvre petite fille-là, c'est pas une bonne affaire. Et pour les madames qui ont des problèmes, il faut voir une contraception très efficace. Le condom, c'est efficace à 97% quand on ne laisse pas sur la table de chevet en disant « bof, passoire, je suis pas à risque
». Ouais.
Alors, c'est là qu'il devient à risque. De telle sorte que les autres moyens contraceptifs sont un petit peu plus bas. On a le stérilet avec progestérone qui est aussi efficace que la ligature, sinon légèrement plus. Mais ce stérilet-là a aussi des effets secondaires chez certaines personnes. Pas toutes.
Non, exact.
Alors, il faut choisir la contraception en fonction de qui on est et il faut savoir ce qui est arrivé à notre famille.
Bien, tout à fait. Mais c'est parce que mais dans le cas de la jeune femme, là, parce que j'ai lu beaucoup, on dirait que dépendamment des sources, on s'entend pas. Parce qu'on semblait dire qu'elle souffrait d'un déficit en protéines C.
Ce qui est un facteur, c'est un facteur génétique. C'est son problème génétique. Tu as le facteur C, tu as le facteur S, puis tu as d'autres facteurs, facteur 5. Fait que quand tu coagules, là, ça se passe pas, flouigne, tu fais un caillou. Là. Une substance qui active une substance, qui active une substance, puis une fois qu'elle est activée, elle active les autres, puis là, elle active les plaquettes, puis là, ça fait un mouton. Il y a des gens qui ont des déficiences dans ces protéines-là, qui sont des protéines anticoagulantes, c'est comme du téflon, là, et ça empêche de partir la chaîne. Mais il y a des gens qui l'ont pas. Donc, ils caillotent facilement.
OK, donc elle, le risque était multiplié, là, c'est
exact,
ça. C'est...
Exact. Elle, elle avait un risque de base. Par exemple, c'est 3 pour 10 000, là, mais elle était montée à 1 sur 100.
OK, c'est
avec son facteur de coagulation.
OK, mais ça, là, je ne sais pas si elle avait un médecin de famille et tout. Ça, ça aurait-tu on aurait dû en prendre note, là, en tenir compte, là.
Oui. Le problème, là, un des problèmes, hein? En fin de semaine, là, j'ai été confrontée à ça. Hein? J'ai quelqu'un qui m'a raconté son histoire. Des signes d'appel de maladies intestinales qui peuvent être un cancer chez une personne de plus de 50 ans. Plus, depuis 3 mois, des maux de tête qui réveillent la personne la nuit, ce qui est un deuxième fanion rouge d'investigation. La personne a téléphoné au mois de mars à son GMF. L'infirmière a dit, ben, vous parlerez de ça à votre médecin, à votre examen annuel en novembre.
Et mon dos, OK, c'est loin.
Et là, elle a consulté la personne parce que ça faisait trop mal, trop handicapant. Et quand elle est arrivée à son GMF, le médecin, l'infirmière, il a dit, puis mon mal de tête, vous faites, oh non, c'est un problème seulement. Choisissez lequel.
Ben, voyons.
Oui. Et le médecin qui l'a vu, quand elle a glissé, la personne a glissé le mot sur son... Non, c'est pas relié. Et l'examen qui a été fait, c'est un examen d'hémorroïdes. Absolument rien d'autre, ça a pris à peu près 5-6 minutes. Pas de demande s'il y avait eu une perte de poids, pas de demande complémentaire. C'est quand tu découpes le monde en morceaux, aujourd'hui, t'es un estomac, puis demain, t'es une tête, puis après-demain, t'es un rein... Bien, tu viens que tu perds de vue l'ensemble de la personne.
Mais c'est sûr, ça veut dire, Dr. Laberge, là, qu'un exemple comme ça, là, donc on parle d'un médecin qui a décidé de cibler là, un problème. Là. C'est, on ne tient pas compte de l'ensemble.
C'est la philosophie de la clinique. Ouais. Okay. Signe de tes menstruations, tout croche, puis en même temps, tu as mal au ventre, à l'estomac, bien, c'est un problème. Fait qu'on va traiter ton saignement, mais au yard de ton estomac. Choisis lequel tu veux qu'on traite aujourd'hui.
Voyons.
Alors, si on fonctionne comme ça dans cette clinique-là, ben il y a d'autres cliniques qui fonctionnent. Tu as vu le Journal de Montréal, j'étais en joie le vert, j'avais la tête au plafond, là. C'est 2 minutes 25 pour avoir 7 mois d'antidépresseurs. Tu peux pas poser la question à la personne si vous avez des antécédents de suicide dans votre famille, si vous-même avez déjà fait des tentatives de suicide, si ça handicape votre vie. Tu as des questions que tu dois poser au moins pendant 15 minutes. Faire le tour.
Normalement, là, vous vous en faites, là. Un patient qui arrive, là, qui va vous voir, là.
Ouais.
Bon, vous passez combien de temps avec lui? Hein? Mettons une moyenne, là. Mettons que à la limite, même si je suis une nouvelle patiente,
je vais vous voir. J'ai une moyenne de 30 minutes. T'sais. Je ne suis pas un docteur riche, là, fait que j'ai une moyenne de 30 minutes.
OK.
C'est clair qu'il y a des affaires qui sont plus vite. T'sais. Tu viens parce que tu as une migraine, puis c'est classique. Comme, puis tu n'as rien d'autre, tu es jeune, tu as 22 ans, tu as une migraine, puis c'est classique, puis je te fais dire que... Mais il faut que tu me racontes qu'est-ce qui se passe. Docteur, j'ai mal à la tête. Quel ça? Où mal à la tête? À droite. De quelle sorte de douleur? Ça brûle-tu? Ça fait comme le cœur dans ma tête. OK. Avez-vous mal au cœur avec ça? Oui. Quand est-ce que ça commence? Ça commence toujours la nuit. Tu fais oup, 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 oup. OK. Ça, c'est déjà différent. Non, ça commence vers 4 heures quand je suis fatiguée. Donc, tout ça, toute cette histoire-là, nous donne des informations avant de faire quelques gestes que ce soit. Mais c'est l'histoire. J'ai déjà eu une madame, écoute, douleur effrayante, coup de poignard en haut du poumon gauche. Se met à tousser, se met à avoir de la misère à respirer, 32 ans. Demande si elle a eu mal aux jambes, si elle a eu quelque chose. Ah, oh, les jambes m'ont enflé, mais il a fait bien les choix la semaine passée. Ça ressemble à une phlébite, peut-être, d'un côté. Se faisait-tu mal? Non, pas tard.
Là, rappelez-nous, là. Une phlébite, c'est
phlébite,
quoi exactement?
C'est une inflammation, celle qu'on craint, là, à l'intérieur souvent de la jambe. Ça peut être ailleurs, là, mais fréquemment, c'est à l'intérieur du mollet. Quand tu lèves ton pied comme quand tu décélères avec ton accélérateur d'auto, là, et quand tu as une enflure d'un côté de la jambe et que cette douleur-là se mobilise, tu consultes. Et à ce moment-là, on te fait faire ce qu'on appelle un Doppler, qui est une échographie de ta veine, où on va voir s'il y a un caillot, s'il n'y en a pas, si c'est inflammé ou s'il n'y en a pas. Puis on va te faire faire certaines prises de sang. Et ça va éviter que ce caillot-là se lance dans ta circulation. Les événements qui vont précipiter ça sont la déshydratation, les vols d'avion sont très intéressants pour ça parce que tu bouges pas en avion, tu mobilises pas ton mollet, et les gens qui vont se croiser les jambes deux tours de patte, là, tu sais, ou qui vont rester appuyés sur un barreau de chaise longtemps, là, tu sais. J'ai une comptable qui avait fait ça, elle était restée, c'est le temps des impôts, puis elle était restée à côté sur le barreau de chaise en dessous de sa chaise, tu sais. Elle avait fait une belle flébite avec ça. Donc, il y a des gens pour lesquels on va avoir des causes mécaniques, comme après un plâtre, par exemple, ou une immobilisation. Et il y a des gens qui n'ont pas de cause. Et là, on va chercher s'ils n'ont pas ces facteurs-là de coagulation naturelle.
OK. Fait que c'est visiblement. Je pense que votre chien se manifeste ce matin.
Oui, ben, elle va faire des vents sur terre. Elle a dû voir quelque chose qui a bougé, tu sais.
OK. Bon, OK.
Fait que c'est pour ça. L'histoire est importante. Notez-la. Ouais. Sauvez du temps. La pilule est un bon moyen contraceptif pour ne pas avoir ce risque-là. Est-ce que c'est le meilleur moyen pour vous? Il faut s'asseoir et discuter de ça. Et surtout, demander à la jeune fille avec sa thrombophlébite et avec son embolie pulmonaire. J'ai dit, en as-tu dans ta famille? Elle dit non. Et par le temps que tu lui donnes la pilule à 19 ans, puis que tu la revois à chaque année, elle oublie de te dire entre-temps que sa mère et sa tante ont fait une phlébite. Et elle peut ne pas le savoir. Quand j'ai reculé avec elle, j'ai dit, après son embolie pulmonaire, j'ai dit, coudon, il y en avait-tu chez vous qui sont apparus depuis qu'on se connaît? Elle dit, ben oui, elle dit, l'année passée, ma mère en a fait une, puis mes deux tantes n'ont fait une l'année d'avant. Mais elle ne le savait pas.
OK. Mais donc, à ce moment-là, à partir du moment où elle vous dit ça, est-ce que vous changez de moyen contraceptif?
Bien, c'est sûr. Dès que quelqu'un fait une phlébite, c'est terminé la pilule. C'est terminé les hormones.
À ce point-là?
Oui. C'était déjà coagulable de base un petit peu plus que la moyenne des ours. On ne va pas jouer avec le feu.
OK. Et la pilule contraceptive, là, est-ce vrai qu'après tant d'années, il faut arrêter ça comme femme?
Non.
Que...
Non? Ben, t'arrêtes ta ménopause, là, c'est sûr.
Oui.
Mais il n'y a pas d'indication. Tant que tu as le besoin contraceptif. Regarde, supposons là que tu es bien, bien fâché après ton chum qui est devenu ton ex. OK? Puis que tu décides d'être en quarantaine pendant un bout, puis moi, les gars, je veux rien savoir de ça pour les deux prochaines années, là. Regarde, je me suis promis que je vivais ma vie de célibataire seule, puis j'apprenais à vivre seule, puis tu sais, etc. Là, tu peux arrêter ta pilule. Parce que ta pilule, c'est pour te protéger contre la grossesse chez beaucoup de femmes. OK?
Oui.
On parle pas des problèmes médicaux, là, mais on parle de protection. À ce moment-là, tu dis, si des fois j'ai une petite tentation, mettons, hein, petit condom vont faire la job, ça va me protéger un 2-pour-1, hein, contre les bébites puis contre les bébés. Oui. Hein? Ça fait qu'à ce moment-là, tu prends tes condoms, t'es sécuritaire, ça vient de s'éteindre. Tu décides d'avoir des relations plus fréquentes. Donc, ton facteur de risque augmente. Tu reconsultes, tu vas chercher ta pilule, puis ça vient de s'éteindre, tu la reprends.
OK, mais moi, je me suis fait dire personnellement par un ancien médecin, tu vas devoir arrêter ça, là. Catherine, ça fait trop longtemps que tu prends la pilule. Là.
Non, il n'y a pas de raison médicale d'arrêter la pilule tant que tu as un besoin de protection et que pour toi, d'ailleurs, ça diminue le cancer des ovaires, savais-tu ça? Ça diminue le cancer de l'intérieur de l'utérus. Yes.
OK, bien moi, je pensais que c'était dangereux. En haut de 40 ans, là, moi, j'avais compris que prendre la pilule, quand ça fait 20 ans que tu apprends, c'est dangereux.
Chez la fumeuse, c'est pas notre premier moyen, c'est clair. En haut de 35, 40 ans, on commence à serrer à vis pour arrêter de fumer parce que cigarette et pilule, passer autour de la ménopause, pas une bonne idée. Mais chez les autres, ou bien non, s'il y a des problèmes cardiaques dans la famille, ou bien s'il y a des facteurs de risque, c'est clair qu'on y va avec les facteurs de risque. La fille est diabétique, il y a tous ces facteurs de risque-là. Mais si on n'a pas de facteurs de risque, une fille ordinaire, là, une femme en santé ordinaire, on ne devrait pas, si on n'a pas, comme je te dis, si elle a encore des relations régulières, puis si elle a encore besoin de protection, souvent, en périménopause, on peut utiliser un stérilet parce que ta fertilité va baisser naturellement passé 40-45 ans. Puis à ce moment-là, on va compter ce petit facteur de baisse-là associé à un moyen qui n'est pas 100% efficace, devrait faire la tâche.
Bon, là, t'as plus, là, ce matin, j'apprends plein d'affaires. Là. Je suis certaine, je ne suis pas toute seule. Là, la périménopause, là, ça, c'est combien de temps avant la ménopause? Là?
C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est la fille qui commence à avoir des signes que ses menstruations vont s'étirer, qu'ils vont être plus rapprochés, qu'ils vont être tout croches. Ça peut faire partie de la périménopause. C'est-à-dire que ton cycle, ça n'arrête pas, ta production d'hormones n'arrête pas net frais de sec à moins d'avoir une chirurgie ou un traitement de cancer ou on t'en traite ça. Là. Mais la ménopause, c'est comme l'adolescence. Tu sais, tu vas avoir tes premières menstruations à 11 ans et demi, 12 ans.
Ouais.
Puis après ça, tu vas avoir les prochaines à 13 ans. Puis après ça, tu vas l'avoir à 13 ans, 2 mois, 4 mois, 1 mois, 2 mois. C'est ça la péri-adolescence, hein? Appelons ça de même. La périménopause, ça peut se passer de la même façon. Par contre, moi, j'ai une religieuse, elle me dit, coudon, j'ai 58 ans, faut-tu arrêter cette affaire-là? Elle dit, moi, je suis menstruée, là, aux 28 jours à 10h15.
À 58 ans?
C'est toujours demain. À 58 ans.
OK, fait que la ménopause, c'est variable d'une femme à l'autre, là. Ça arrive pas, évidemment.
Exactement. Mais elle, là, 3 mois après, ça a arrêté net frais de sec. J'ai demandé, avez-vous des bouffées de chaleur? Non, avez-vous des.
C'est-tu une légende urbaine de penser qu'une femme qui a eu ses règles très tôt va avoir une ménopause tardive ou ça, c'est faux?
Non,
ça n'a pas rapport.
On prend ça quand ça vient. On prend ça au jour le jour. Au jour le jour.
OK, formidable. Bon, on a appris plein d'affaires. Hey, Dr Laberge, je vous salue. Comme je quitte vendredi pour vacances, je vais vous dire un gros merci. Ça a été du bonheur. Ben, et oublie-nous. Oui, ça, je suis capable de faire ça, par exemple. Parfait. Inquiétez-vous pas. Autant je vous aime, mais je suis capable de vous oublier, par exemple.
Parfait. Pendant 3 semaines, 2 semaines?
Un mois. Un mois, 4 semaines.
Ouais, ah, je vais te manquer pendant un mois. Oh boy.
Oui, mais c'est correct. Je vais vous retrouver par la suite. Là. J'ai besoin d'aller prendre un petit peu de repos, mais je serai très contente de vous retrouver.
Ben,
à bientôt.
Je te souhaite de très bonnes vacances. Bye-bye.
Merci, Dr. Laberge. À bientôt. Bye-bye. Dr. Christiane Laberge. Mais elle sera là, elle. Inquiétez-vous pas, Raphaël va prendre le relais à compter de lundi prochain.